La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Il est 6h16 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Le confinement, l'enfermement même ressenti par certains jusqu'au relâchement dont nous parlions hier, cette période étrange lors de laquelle vous avez besoin peut-être d'être accompagné, eh bien nous sommes toujours à vos côtés. On va vous aider avec mon invité inattendu de prestige ce matin. Bonjour Bertrand Picard.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, et vous-même? Vous êtes en Suisse, hein?
Oui, je suis en Suisse, oui, où le confinement n'est pas aussi total qu'en France.
Oui, et vous êtes, je le rappelle, hein, je ne sais pas s'il fallait le faire, psychiatre, explorateur, aventurier, le premier tour du monde en ballon en 99, autre tour du monde à bord de l'avion solaire Solar Impulse. À chaque fois, c'est une expérience de la solitude et de l'isolement. C'est pour ça qu'on vous a appelé Bertrand Picard. Mais d'abord, et je le sais, on va démarrer par cela, vous êtes psychiatre et donc médecin, et c'est tout naturel, vous vouliez saluer le travail de vos confrères du corps médical.
Oui, absolument, parce que finalement le confinement est un luxe. Il y a beaucoup de gens qui le vivent comme un enfermement, comme une contrainte, mais c'est un luxe de pouvoir être confiné dans une situation comme aujourd'hui. Il y en a qui peuvent pas, qui sont au front, qui sont en train de se dévouer pour les autres.
Et il faut les saluer. Je prends cette interview à l'envers, puisque Bertrand Picard, pour moi, vous incarnez la mobilité, le tour du monde en ballon, Solar Impulse, on en a parlé. Nous nous sommes rencontrés sur l'antenne d'Europe 1, il y a un an, sur le circuit du Mans. Nous avions bu de l'échappement de voitures à hydrogène. Bref, vous bougez, Bertrand Picard. Et là, en ce moment, vous êtes de ceux qui essayent de voir comment on peut tirer parti de cette situation inédite, comment on peut grandir à partir d'une épreuve de confinement.
Oui, peut-être que dans la vie de tous les jours, on bouge trop, ou en tout cas, on bouge à l'extérieur de soi-même, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi bouger à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire voir ce qui se passe, s'écouter sa vie intérieure. Finalement, on peut vivre un confinement comme celui-là, un peu comme une expérience spirituelle, pas une expérience religieuse, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais être à l'écoute de soi, être à l'écoute de sa vie intérieure, découvrir ce qui est nouveau, et savoir qu'en plus c'est utile aux autres.
Alors vous dites que ça n'a rien à voir avec le religieux, mais j'ai le souvenir, il y a une dizaine de jours, d'avoir eu l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, qui nous disait « je préfère parler de retraite collective plutôt que de confinement ».
C'est vrai que c'est une retraite collective à ce niveau-là, mais une retraite c'est quelque chose qui est très spirituel aussi. C'est un moment où on vit l'instant présent. Si dans une nacelle de ballon, ou dans une retraite, ou dans le confinement d'aujourd'hui, on se projette dans le futur, on se réjouit que ce soit fini, on compte les jours, ça devient quelque chose qui est très difficile à vivre. C'est un supplice. Par contre, se mettre dans l'instant présent, ça ne veut pas dire en profiter, parce que peut-être que c'est difficile. Mais vivre l'instant présent, se sentir exister dans son corps, se sentir respirer, sentir qu'il n'y a pas de futur et pas de passé, hein, qu'on avance avec le temps. Eh bien, au moment où le confinement sera fini, on sera presque étonné que ce soit déjà fini, parce que le temps n'aura pas compté, puisqu'on aura été avec le temps.
Et c'est d'expérience, hein, que vous parlez, Bertrand Picard, ne pas compter les jours, vivre l'instant présent, ne pas avoir un œil sur le calendrier, 15 avril, 4 mai, ce que nous dit le gouvernement. Et en même temps, vous conseillez aussi de mesurer le caractère historique de l'événement. On fait partie de l'histoire, on est des acteurs de l'histoire.
Ah, c'est complètement unique. C'est complètement unique. Vous êtes dans un moment où le monde vit une expérience qui n'est pas arrivée depuis des décennies, peut-être même des siècles, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y avait des épidémies de peste, des épidémies de choléra dans le passé, et que ça décimait la population. C'est des millions de personnes qui mouraient. Mais là, tout à coup, dans le monde moderne, on nous dit qu'il y a une épidémie, on nous dit qu'il y a un danger. On se rappellera de ce moment dans des dizaines d'années. On s'en rappellera en lisant des livres d'histoire. Eh bien, on y est maintenant, effectivement. On est au milieu, c'est nous les acteurs.
Alors, qui sont les plus faciles à conseiller, Bertrand Picard? Ceux qui vivent le confinement seuls ou en même temps, l'enfer, c'est les autres? Peut-être que c'est plus difficile d'avoir d'autres personnes autour de soi?
C'est vrai que c'est une question de caractère, c'est des expériences différentes. Dans Breitling Orbiter, pour le tour du monde en ballon, nous étions deux. Donc nous avons dû apprendre à communiquer entre nous, apprendre à tout nous dire et à comprendre que le but c'est jamais de critiquer l'autre ou de parler de l'autre, mais de parler de ce qu'on ressent soi-même. Quand on ressent quelque chose de pénible, on peut dire ben, « pour moi, c'est difficile ». Ça ne veut pas dire que l'autre fait faux. Donc c'était une manière vraiment de communiquer, qui a été très très loin. Je me rappelle qu'au milieu du Pacifique, j'ai dit à Brian, mon coéquipier, je lui ai dit, écoute, je suis pas très rassuré. Et lui me dit, ben heureusement que tu oses me le dire, parce que moi, j'osais pas te dire que j'étais mort de trouille. Et on a éclaté de rire, et ça nous a vraiment rassurés tous les deux de pouvoir en parler.
Et ça implique aussi de se connaître. Ce que vous décrivez, c'est aussi de rentrer quelque part dans l'intimité de celui avec qui on partage cet isolement.
Absolument. Absolument, c'est un partage, c'est une manière de faire connaissance avec l'autre, d'apprendre à parler, d'apprendre à s'exprimer soi-même, à ne pas vexer l'autre et de dire que ce qui est ressenti par soi-même. Donc ça peut pas être une critique pour l'autre, c'est forcément le ressenti de ce qu'on fait, c'est une réalité pour soi-même. Et quand on échange deux perceptions qui nous semblent réelles, eh bien, c'est une vraie manière de se rapprocher et de permettre de se connaître. Donc, dans un couple, parfois, on se connaît pas aussi bien que ça, avec ses enfants, avec des amis. On est parfois dans cette superficialité qui fait qu'on croit se connaître. Mais quand on est confiné ensemble, ça va encore beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, c'est là qu'il faut éviter les agressions, les violences sur l'autre. On voit qu'il y a des augmentations de violences conjugales. C'est sûr qu'il faut le prendre complètement à l'inverse, comme une occasion d'approfondir notre relation.
Alors, une question que je voulais vous soumettre, c'est une question pour le psychiatre à nouveau, mais pour le penseur du monde aussi. C'est ce que dit votre confrère, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Depuis Néandertal, les êtres humains enterrent leurs morts. On a bâti des sépultures, élaboré des rituels du deuil. Sur le plan psychologique, ils sont extrêmement importants. Pas une seule culture sur la planète sans rituel de deuil. Or, des familles en ce moment se voient privées de funérailles. Il explique que cette mesure sanitaire très précise, ça va laisser des traces. Est-ce que vous partagez son analyse ?
Oui. Oui, je pense que ça va être beaucoup plus difficile de faire le deuil, mais il faut comprendre une chose, on est dans une situation qui est irréversible, on peut pas en sortir en se disant « je ne veux pas qu'elle existe », on peut pas se dire « j'aimerais que ce soit autrement ». Par conséquent, il y a une philosophie nécessaire de l'acceptation. Vous savez, accepter que quelque chose soit comme il est, c'est pas du fatalisme, c'est une décision qui est pleine de sagesse. Et c'est ça, faire le deuil. C'est d'apprendre à accepter quelque chose qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, ça va être plus difficile pour certains. C'est une épreuve, c'est une expérience. Mais je crois qu'il faut aussi voir la vie comme une expérience permanente. On doit apprendre à faire toujours mieux, à être toujours plus adéquat, à être toujours plus sage, plus compassionnel. Et pas simplement se dire la vie c'est pour être riche et heureux et que les choses aillent comme on veut. Ça va pas toujours comme on veut et c'est ça qu'on doit accepter.
Un temps de réflexion aussi. Alors on va terminer sur une note presque poétique. Enfin, ça dépendra de votre réponse, Bertrand Piccard. Si on survole en ce moment la Terre comme vous l'avez fait en ballon ou à bord de Solar Impulse, avec la moitié de l'humanité confinée, un petit exercice d'imagination, ça donne quoi en ce moment, ce que vous voyez ?
Écoutez, ça donne un ciel qui est complètement vide. Depuis deux semaines, j'ai vu un seul avion qui laissait une trace dans le ciel. Ça donne un monde où il n'y a pas de smog, où on voit pas de pollution. On voit un monde comme il existait il y a 80 ans ou 100 ans. C'est impressionnant, mais il faut bien se dire une chose, que ce n'est pas le message qu'il faut donner pour la protection de l'environnement. On ne va pas sauver l'environnement en détruisant toute l'économie et toute l'activité humaine. Ce qu'il faut faire pour l'après-crise du coronavirus, c'est bâtir un monde nouveau qui est fait sur des énergies renouvelables, qui est fait sur des technologies propres, qui est fait sur l'efficience des ressources, l'efficience énergétique, sur le respect de l'environnement. Mais c'est un monde qui doit pouvoir créer des emplois et qui doit pouvoir améliorer la qualité de vie et faire du profit industriel, parce que sinon il n'y a pas de bien-être social. Donc c'est là-dessus que nous travaillons avec la Fondation Solar Impulse. Maintenant, c'est de trouver 1000 technologies, donc 1000 exemples que la protection de l'environnement est financièrement rentable, qu'on n'a pas besoin de décroissance, qu'on n'a pas besoin de détruire notre économie et qu'on peut vivre en parfaite harmonie avec la nature, simplement parce que les technologies propres, aujourd'hui elles existent, elles sont rentables.
Merci beaucoup Bertrand Picard. Profitez.
Je vous en prie.
J'invite nos auditeurs qui sont lève-tôt en ce moment et qui nous ont entendus à télécharger le podcast et à le partager, parce que ce temps d'arrêt, quand évidemment on n'est pas soi-même impacté par la maladie, soi-même ou l'un de ses proches, eh bien c'est peut-être un temps de réflexion, d'introspection aussi. Bertrand Picard, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques réflexions avec nos auditeurs en direct ce matin sur Europe 1. Il est 6h26.